Bonjour mesdames, messieurs, nous allons donc reprendre notre investigation sur les modifications qu'il y a eu dans la représentation que nous nous faisions de l'Avesta à partir de 1989. En 1989, avec la collaboration de son élève Johanna Narten, Karl Hoffmann publie la mise au point définitive de sa recherche sur la transmission de l'Avesta, intitulée Der Sassanidische Archetypus. Il dresse un tableau qui, dans une certaine mesure, est fortement inspiré par celui de Bailey. Mais la contribution personnelle de Hoffmann, c'est d'abord, surtout et avant tout, peut-être, c'est ce qui a le plus de prix, une contribution, une analyse technique de la manière dont fonctionne l'alphabet avestique, c'est-à-dire l'écriture dans laquelle sont écrits les manuscrits. D'autre part, il apporte à la théorie de Bailey, à la représentation assez schématique de Bailey, soit des compléments, soit quelques petites modifications. Bon, ce qui est clair dans le tableau de Hoffmann, vous l'avez sous les yeux, c'est que la notion clé, le titre de son livre en atteste, c'est celle d'archétype sassanide. C'est-à-dire que Hoffmann lit, comme l'avait fait dans une certaine mesure Bailey, mais avec plus de système, l'invention de l'écriture avestique à l'existence d'un texte officiel, archivé, à l'époque de l'Empire sassanide. L'écriture avestique, on connaissait son origine depuis presque un siècle, plus d'un siècle qu'emparé d'Er Sassanidische Archetypus. On sait que c'est une écriture qui a été inspirée par l'écriture moyen-perse d'une certaine époque. Seulement, la grande contribution de Hoffmann a été de montrer la manière dont cette vague inspiration a fonctionné. En réalité, nous avons affaire à une opération fort intéressante, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Dans le cadre surtout d'une société comme la société iranienne qui n'était guère amatrice d'écriture, une société qui a produit très peu de documents écrits jusque-là. En réalité, l'écriture moyen-perse, inspirée par l'araméenne, est une écriture consonantique. C'est celle que postulait Andreas pour l'archétype arsacide. Bien, une écriture consonantique, mais on va la transformer pour noter l'Avesta en une écriture alphabétique à la grecque et à la romaine. Ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie qu'il faut inventer des signes, enfin, ou en trouver. Il faut passer d'un système de 16 signes à un système de 49 signes. C'est énorme. Alors, que peut-on faire ? Il y a toutes sortes de manipulations possibles. On peut adopter des signes repris à une autre écriture moyen-perse, un peu moins simplifiée. On peut aussi jouer sur la forme des signes en leur ajoutant ce qu'on appelle des signes diacritiques afin de produire certaines distinctions. Mais là, je ne vais pas m'attarder sur cette opération, mais je voudrais simplement bien que vous compreniez ce qui d'ailleurs avait fortement impressionné Hoffmann, c'est qu'une opération comme celle-là, c'est une opération linguiste. On ne passe pas d'une écriture consonantique à une écriture alphabétique sans un certain sens de la langue. Ce qui fascine aussi dans cette opération, c'est que nous n'avons pas dans l'écriture avestique, qui n'a jamais servi à autre chose, une écriture parfaite. C'est une écriture au moins aussi précise et analytique que l'alphabet grec ou latin ou cyrillique. Cette écriture n'a jamais servi à rien d'autre qu'à noter les textes avestiques. Jamais. Or, une telle opération, ça n'est pas nous trouvons donc pas devant une écriture l'évolution naturelle d'un système d'écriture. Il a fallu une intervention humaine brutale, spectaculaire. On a décidé, c'est une invention en un terme, c'est une invention. Donc l'œuvre d'une personne ou bien d'un groupe de personnes, ce qui est évidemment plus probable. N'est-ce pas ? Alors on peut rêver, hein, nous avons eu une petite équipe, n'est-ce pas, qui a mis ça au point un jour ou l'autre. Nous n'avons aucun témoignage historique là-dessus, nous ne savons pas comment ça a fonctionné, nous ne savons pas quand, mais je vais en parler pour ce qui est, ce qu'il en est dans la représentation d'Hoffmann. Alors, cette notion d'archétype sassanide, cette écriture, selon Hoffmann, a été inventée pour mettre par écrit un exemplaire unique de la Vesta, unique. Ça, c'est la représentation d'Hoffmann, on pourrait en discuter. Cet exemplaire unique est un, dans la représentation que s'en fait Hoffmann, c'est un objet officiel. Il est déposé quelque part dans les archives, soit ecclésiastiques de l'État sassanide, ou bien même dans les archives royales. C'est un étalon, en quelque sorte, un étalon écrit auquel on peut se reporter lorsqu'il vient des doutes sur la lettre du texte. C'est ainsi qu'il se représente les choses. Alors, petit complément, vous voyez que cet archétype sassanide correspond dans le schéma de Bailey au texte édité, à l'édition, comme disait Bailey, sous Khosrow Ier au VIe siècle. Mais Bailey n'avait pas mené cette enquête sur les aspects techniques de l'écriture. Il n'avait pas non plus, il ne s'était pas nécessairement non plus représenté l'édition sous Khosrow comme véritablement la mise au point d'un archétype étalon, hein, déterminé une fois pour toutes. Petite nuance qu'apporte Hoffmann à cette équivalence entre First Edition et archétype sassanide, c'est une question de datation de l'invention de l'écriture et de la mise par écrit. VIe siècle, Khosrow Ier pour Bailey, s'est fondé bien sûr sur l'état que l'on connaissait de l'écriture moyen perse, mais Hoffmann va proposer une date qui est deux siècles plus tôt, sous l'un des premiers rois, un très long règne, qui s'étend pratiquement sur tout le IVe siècle, du roi sassanide Shabour II. Hein, c'est, pourquoi Hoffmann remonte-t-il la date ? Eh bien, je crois que dans ses motivations, surtout, il renoue, hein, avec sans doute ce qu'avait fait Geltner par-delà Bailey, mais aussi Andreas. C'est-à-dire que remonter la date de deux siècles, cela permet de sauvegarder dans une certaine mesure le témoignage du Descartes, qui semble parler d'une élaboration progressive entre le tout premier roi sassanide, Ardashir, et puis jusqu'à Khosrow Ier. Hein? Tout cela avait été gommé dans le schéma de Bailey qui ne conservait que l'intervention de Khosrow Ier. Remonter à Shabour II, quoique Hoffmann ne s'y soit pas essayé, il n'est pas du tout un historien, pour lui, il ne va pas tenter une restitution historique à partir du Descartes, mais il y a une sorte de respect des sources dans cette représentation des choses. Alors, par ailleurs, il avait une raison technique qui rendait ce vieillissement possible. Quelle était, puisque l'écriture avestique reflète un certain degré d'évolution de l'écriture moyen perse. Il semblait que cet état de l'écriture moyen perse n'était pas acquis avant le VIe siècle, mais Hoffmann se fonde sur une découverte plus récente, un sarcophage chrétien trouvé à Istanbul. C'était le sarcophage d'un Iranien mort à Istanbul, chrétien. Et l'inscription de ce sarcophage semble déjà présenter des traits graphiques qui sont ceux que l'alphabet moyen perse a transmis à l'écriture avestique. Or, c'est faux. Là, ce document, Hoffmann a été victime d'un document que l'on évaluait mal. On a su quelques années plus tard, au début des années 90, qu'en réalité, le sarcophage d'Istanbul était certainement beaucoup plus récent et était probablement datable du IXe siècle de notre ère. Donc, le document concret qui permet à Hoffmann d'opérer le vieillissement, il est faux. Donc, rectifions ça tout de suite. Nous, aujourd'hui, nous considérons effectivement, d'une manière assez générale, que la datation de Bailey reste très probable. Si mise par écrit il y a eu sous les Sassanides, ça n'a pu être qu'à partir du règne de Khosrow Ier. Alors, on doit plutôt s'exprimer de la manière suivante, qui est très prudente, n'est-ce pas, c'est de dire, bon, la mise par écrit de la Vesta était possible à partir du règne de Khosrow Ier, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas été opérée beaucoup plus tard encore, et peut-être même après la chute de l'Empire sassanide. Ça ne peut pas être exclu. Donc, voilà pour le premier point. Pour Hoffmann, comme pour Bailey aussi, ce que nous avons recueilli de l'Avesta, ce que nous allons appeler dans le schéma de Hoffmann l'Avesta Ausgabe, c'est-à-dire l'Avesta de l'édition de Geltner que nous possédons, c'est aussi, comme l'avait dit Bailey, des fragments sauvés. Hein. C'est le débris de l'Avesta, c'est le débris de l'archétype sassanide, les restes. Ben, donc, mais Hoffmann va apporter ici, dès les premiers moments de son enquête, autour des années 70, une précision intéressante. C'est-à-dire que la philologie avestique va permettre à Hoffmann de restituer un stade intermédiaire entre l'archétype sassanide et les manuscrits que nous possédons. C'est un détail qui peut paraître extrêmement intéressant. Nous allons voir comment nous allons pouvoir l'utiliser. En réalité, Hoffmann s'est rendu compte en 1969, je puis en témoigner peut-être de façon personnelle, car lorsque j'ai rencontré pour la première fois Hoffmann et Erlangen en 69, il venait de découvrir cela et il était terrorisé. Il était terrorisé parce que, comme vous allez le comprendre, on se rend compte, lorsque l'on fait cette découverte, que nous avons été à deux doigts de ne jamais posséder l'Avesta. Hein, vous allez comprendre tout de suite. Il y a dans le Yasna 12, dans le livre du Yasna 12, une forme que Geltner édite de la manière suivante, Zionim. Ça, c'est un accusatif, le M d'accusatif. Or, il est assez clair pour tout philologue indo-iraniste que le mot védique correspondant est djani, à l'accusatif djanim. Oui, ça signifie la destruction. La destruction, mais alors la destruction absolue, hein, la désolation. Bon. Or, souvenez-vous, la théorie du postulat linguistique que Hoffmann aimait beaucoup, si nous transposons ce mot védique en avestique, cela ne peut pas correspondre à djanim. La forme théorique est zienim. Zienim. Il y a deux phénomènes phonétiques, vocaliques, comme vous voyez, pourquoi il a fallu tant de signes, hein, c'est-à-dire qu'on a multiplié les consonnes, il y a beaucoup de nuances vocaliques dans la notation de l'Avesta. Ici, nous avons un A long nasalisé qui s'est nasalisé devant la nasale. Hein, c'est l'influence de la nasale. Alors qu'au contraire, nous savons que régulièrement, dans le postulat linguistique, dans la transposition à partir du védique, ce n'est pas la nasale qui va l'emporter dans ce cas-ci, mais ce qu'on appelle l'infection. Hein. L'infection, c'est-à-dire que le A long qui est cerné par des sons palataux, yot devant, voyelle i dans la syllabe suivante, eh bien, il sera infecté par la palatale et donnera une voyelle, la voyelle que nous transcrivons par e. Bon, or, donc, cette leçon est inexplicable. Si maintenant nous appliquons la critique textuelle, la plus rigoureuse, consultant la paracritique de Geltner, et en examinant bien les diverses leçons attestées, on se rend compte que la meilleure leçon, mais qui paraît absurde, ce n'est jamais ça. Mais ce n'est pas cela non plus. Ça, c'est une leçon marginale. En réalité, la plupart des manuscrits donnent ceci, qui est absurde en apparence. Zion yénim. Vous pouvez tirer... excusez-moi, il n'y a pas de répétition de là. Vous pouvez en tirer les conclusions vous-même. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'un copiste, et un seul a pu faire cela, c'est une faute individuelle, a commis une erreur. Il a écrit la mauvaise voyelle, s'est trompé de voyelle. Et puis, il s'en est rendu compte, il a répété la syllabe avec la voyelle correcte. Mais il n'a pas biffé, ça ne se fait pas, le manuscrit n'est pas beau s'il y a une rature. Donc, la forme a subsisté comme telle, et puis, quelques copistes marginaux se sont rendus compte que c'était aberrant, ont corrigé, mais ont mal corrigé. Ils ont supprimé la bonne syllabe et pas la mauvaise. Donc, voilà la découverte qui permet à Hoffmann de penser qu'il y a, entre l'archétype sassanide et les manuscrits que nous possédons, un intermédiaire, mais, et c'est ça qui le terrorisait, un seul. Donc, que tous les manuscrits que nous possédons, en dernière analyse, remontent à un seul et unique manuscrit. Pour cela, je vous disais, bon, s'il est arrivé malheur à ce manuscrit, possédu en rien. Bon. Donc, voilà. Alors, ce manuscrit intermédiaire, déjà défectueux, puisque son copiste se trompe, Hoffmann l'appellera la Stammhandschrift. Stammhandschrift, ce qui peut se traduire par le manuscrit de base. Bon, l'Avesta sassanide sous Shahbour II pour Hoffmann, 4e siècle, le plus ancien de nos manuscrits à coup sûr, 1323 de l'ère commune également, donc 900 ans environ de les séparent. Où peut-on, quelle peut être la date de cette Stammhandschrift ? Eh bien, il y a, nous pouvons préciser, parce que nous trouvons devant une fourchette assez facile à établir. Au IXe siècle, lorsque le Denkart est rédigé, qui nous donne une description de l'Avesta que Hoffmann pense être l'Avesta sassanide, n'est-ce pas ? Le rédacteur du Denkart avait encore un Avesta complet sous les yeux. Il avait encore une copie, peut-être, ou bien l'étalon même, puisque l'auteur du Denkart était un haut responsable religieux, l'étalon original lui-même, au milieu du XIXe siècle. Les manuscrits les plus anciens ont gardé la mémoire d'un modèle que l'on peut dater de vers environ l'an 1020. C'est approximatif, mais on ne peut pas se tromper de beaucoup. Il mentionne le nom d'un homme qui avait été actif vers cette date-là. Nous nous trouvons donc devant entre le IXe siècle et le début du XIe siècle. Donc, cette hypothèse des Stammhandschrift est un complément intéressant et fondé sur quelque chose d'imparable, la faute commune, n'est-ce pas ? La faute commune. Tous les manuscrits reproduisent la même faute d'une manière ou d'une autre, c'est qu'ils ont un modèle commun. Mais nous verrons que les difficultés se trouvent ailleurs. Je complète le tableau. Pour Bailey, avant la première édition, et il en était de même pour Hoffmann pendant un certain temps, avant l'archétype, avant l'invention de l'écriture, et l'archétype sassanide, tout échappait à l'histoire et nous ne pouvions rien savoir. Nous manquions totalement de la moindre documentation. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. Et je crois que cela a été déterminant dans les compléments que Hoffmann a apportés à son enquête. Il y a tout de même quelque chose que nous savons, n'est-ce pas, c'est que l'Avesta n'est pas une langue iranienne occidentale. C'est une langue iranienne orientale. L'Avesta n'a pas été composée en Médie et il n'a pas été composé en Perse. En Perse, c'est impossible pour des raisons linguistiques. Ceux d'entre vous qui ont assisté au colloque il y a 15 jours savent que linguistiquement, on ne peut pas démontrer que l'avestique n'est pas du Mède. Sauf par un tout petit trait très incertain et le traitement des sifflantes devant la nasale. Mais tous les traits que l'on attribue généralement au Mède sont des traits communs avec l'avestique. Donc phonétiquement, on ne peut pas réfuter l'idée que le. On m'a posé la question d'ailleurs ce jour-là, non pas l'un d'entre vous, mais un collègue, me dire mais enfin, est-ce qu'on ne pourrait quand même pas considérer que c'est du Mède? Non. Mais c'est pour des raisons extra-linguistiques. Hein. Simplement, c'est la différence entre le personnel ecclésiastique. L'Avesta ignore les mages, et les mages sont le clergé et un Médie. Si l'Avesta était un texte Mède, son clergé ne s'appellerait pas Atarvan, mais s'appellerait Magou. Ça paraît absolument aussi imparable. Donc, on ne peut pas. Ce n'est pas une langue. L'Avesta n'est pas un livre, si je puis parler de livre, mais ce n'est pas un texte occidental. C'est un texte oriental. Mais un jour, à une date indéterminée, les institutions qui ont assuré la transmission de l'Avesta, la mémorisation des textes, leurs commentaires, leur apprentissage par des disciples, eh bien, ces écoles-là se sont installées en Perse. Nous ne savons pas quand, mais l'Avesta que nous avons recueilli, traduit avec sa traduction moyen-perse, c'est un texte dont dans la transmission depuis une date antérieure à sa mise par écrit, disons-le simplement, déménagé. Hein, depuis sa patrie d'origine jusqu'en Perse. Qui dit Perse va évidemment penser au pouvoir achéménide. Hein, bon, naturellement, pour quelle raison on pense que c'est évidemment une autorité politique d'un certain niveau, d'un certain poids, qui a pu adopter cette tradition religieuse et lui donner les moyens administratifs de se perpétuer. Naturellement, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Hein. Ce n'est pas obligatoire non plus, cela relève déjà de la conjecture. Mais donc, il y a quand même ce qu'il faut retenir, c'est que nous connaissons tout de même un fait de nature historique antérieure à la mise par écrit, c'est l'arrivée de l'Avesta en Perse, de la tradition avestique en Perse. Bon, alors Hoffmann va essayer d'en rendre compte, il va essayer de combler le vide. Il ne le fera qu'après un certain temps. C'est un article de 1979 qui est intitulé d'ailleurs Der Avesta in der Persis, Das Avesta, pardon, c'est un neutre, Das Avesta in der Persis. Et qui figurera, l'hypothèse est reprise dans la synthèse de Der Sassanidische Archetypus. Selon Hoffmann, l'Avesta a transité, attention, transité. Il ne pense pas que l'Avesta est par origine un texte arachosien, mais il pense qu'à un moment donné, la transmission des textes, le soin exégétique a été assuré dans la province iranienne orientale d'Arachosie. L'Arachosie, c'est la région, est en Afghanistan aujourd'hui, c'est la région de Kandahar. Quelles sont ces raisons de penser cela? Eh bien, il y en a trois, mais vous allez voir que c'est un peu curieux. D'abord, une raison linguistique. Hein, le nom même de l'Arachosie, je crois qu'elle figure sur l'exemplier que vous possédez, Arachoiti. Arachoiti, c'est d'ailleurs cette gutturale, hein, Kouaiti, qui figure dedans, qui sera adoptée par les Grecs, qui appelleront cette contrée Arachosia, hein, avec un hi, et dont nous avons, nous, fait Arachosie. Mais donc, il y a un développement, une sorte de de consonantisation phonétique de ce qui est originellement, ce serait en sanskrit, hein, à soi, interne, hein, à l'intérieur du mot. Donc, c'est normalement en véritable avestique, pas cette, cette séquence phonétique notée de cette manière-là, mais dans le nom de l'arachosie, nous la trouvons arachoïti, de cette forme-ci. Hein, arachoïti. Donc, une raison pour Hoffmann, nous avons là un trait dialectal qui n'est ni avestique original, ni moyen, ni perse, évidemment, mais un trait dialectal arachosien. Hein. La première raison, elle est donc linguistique. La deuxième raison, c'est cette histoire, que, cette histoire événementielle dont vous pouvez prendre connaissance en lisant l'inscription de Darius à Behistun, c'est que lorsque un second usurpateur s'empare du trône de Perse, un certain Varyasdatta, il fait quelque chose de très curieux et que Darius n'explique pas, mais qu'il rapporte. Il partage son armée en deux, l'une qu'il dirige contre Darius, qui ne dit d'ailleurs pas où il est, d'ailleurs, hein, on ne sait pas très bien où il est, Darius, mais enfin, ça c'est une autre question. À mon avis, les historiens, j'ai déjà dit à mon collègue Briand, les historiens de l'Empire achéménide n'ont pas assez insisté là-dessus. Donc, une partie de son armée, il la dirige contre Darius, mais l'autre partie, il l'envoie en Arachosie. Pourquoi ? À quoi ça rime ? Envoyer la moitié de son armée dans la lointaine Arachosie, où d'ailleurs se trouve un satrape probablement mis en place, soit par Darius, soit par ses prédécesseurs, et qui l'emportera sur cette armée par ailleurs. Donc, Hoffmann, qui n'est pas historien, va broder là-dessus. Hein. Il va dire, oui, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un trait commun à Darius et à l'Arachosie, et il y a une complicité particulière entre le clan achéménide au pouvoir et quelque chose en Arachosie. Bon. Puis, la troisième raison pour laquelle Hoffmann établit cette hypothèse, elle est d'ordre iconographique, c'est-à-dire sur les reliefs de Persépolis, les proches du roi, les serviteurs, les officiels, etc., dans la mesure où ils ne sont pas perses, mais qu'on les reconnaît à leur couvre-chef, n'est-ce pas, eh bien, ils constituent très souvent une alternance de Mèdes et d'Arachosiens. Donc, l'Arachosie semble occuper une place privilégiée dans l'entourage du roi. Bon, vous pouvez faire la critique immédiatement, aussi bien que moi, n'est-ce pas, de cette représentation des choses. Je n'ai jamais aimé l'hypothèse arachosienne. Je l'ai déjà dit à Hoffmann, mais bon, il y tenait beaucoup. Et puis, ce n'était pas mon avis qui importait, bien sûr. Mais je n'aimais pas cette hypothèse, parce que ces arguments-là, vous le ressentez bien, ils sont beaucoup trop hétérogènes. Qu'est-ce que c'est ? Et quelle est la validité de chacun d'entre eux ? Je ne suis pas non plus historien et encore moins iconographe. Bon, je ne vais pas interpréter ces choses. Mais l'argument linguistique, déjà en soi, c'est un argument étrange. Parce que ce traitement interne à soi, hein, indo-iranien, est absolument exceptionnel. Il est exceptionnel. C'est une exception. Nous en avons deux autres exemples. Ils figurent sur l'exemplier, d'ailleurs. Mais ce sont les seuls. Par contre, ce que nous avons, c'est que le traitement de S plus la sonante palatale, n'est-ce pas, soit, eh bien, RE est la règle à l'initiale du mot. Ce n'est donc pas un trait étranger à l'avestique, mais c'est son déplacement de l'initiale du mot à l'intérieur du mot qui est curieux. Hein, qui est curieux. Nous n'avons qu'un autre exemple. Je ne sais pas très bien ce que l'on peut faire de ça. Mais en tout cas, voilà l'hypothèse, voilà l'entier, la manière dont Hoffmann se représente l'histoire de l'Avesta. Nous en avons fait la critique, nous allons continuer, si vous le permettez. Mais je voudrais d'abord faire remarquer trois détails. Souvenez-vous, Dans le cadre de l'hypothèse d'Andreas, dans les années 60, Kuiper avait assez bien défini quelle était la situation. Lorsqu'une forme avestique échappe au postulat linguistique, comme le fait dans une certaine mesure le Ziani médité par Geltner par rapport au Gianni avestique, eh bien, il peut y avoir trois raisons distinctes. Il faut distinguer entre l'une des trois. Il peut y avoir une raison graphique, c'est-à-dire, dans le cadre de l'hypothèse d'Andreas, Kuiper pensait bien entendu aux fausses vocalisations. Je ne crois pas qu'il soit très facile d'expliquer par la fausse vocalisation celle de Zionim, parce que nous sommes ici dans le domaine du raffinement vocalique de l'alphabet avestique, et je ne vois pas en quoi le passage par une écriture consonantique pourrait expliquer la substitution des voyelles dans cette forme-là. Ici, Hoffmann a très bien montré qu'il s'agissait d'autre chose. Nous savons que c'est une pure erreur de copiste. Bon, il disait, bon, erreur graphique, fausse vocalisation. Erreur, non pas erreur, mais divergence linguistique avec le sanskrit. Il peut y avoir une divergence linguistique. La langue, l'avestique n'est pas le sanskrit, simplement. Il peut diverger. Troisième source de disparité, eh bien, idiomatique, disait Kuiper, c'est-à-dire la langue des copistes. La langue des copistes. Eh bien, Hoffmann va, en quelque sorte, réduire à deux ces raisons de disparité, d'une manière intéressante et, je crois, décisive. Dans la mesure où il rejette entièrement la théorie d'Andreas, il sait qu'il y aura des différences qui peuvent être dues à la graphie. Mais pour cela, il va invoquer un autre principe que celui de la fausse vocalisation. C'est celui d'une diasévase érudite. Le mot diasévase surprend très souvent mes interlocuteurs parce que ce n'est pas un terme qui est très fréquent dans les autres disciplines philologiques que l'indo-iranien. C'est évidemment un calque du grec diaskeuasis, par laquelle les Grecs, entre autres, désignaient le travail érudit sur le texte homérique. Pour des raisons que je ne connais pas bien, la philologie classique n'a pas adopté le terme. Je crois que l'usage philologique, je vous le dis pour ne pas que vous ne soyez pas surpris, l'usage philologique du terme diaskoyase en allemand, c'était ce qu'employait Hoffmann, ou diasévase en français, est propre à la philologie indo-iranienne. Je crois qu'il remonte à l'indianiste Hermann Oldenberg, et Hoffmann l'a repris à Oldenberg, et je l'ai repris, mais en le traduisant en français à Hoffmann. L'idée de Hoffmann, il attribue donc un certain nombre de choses à une diasévase orthographique. C'est-à-dire, pour le dire simplement et le décrire simplement plutôt, n'est-ce pas ? C'est-à-dire l'intervention en quelque sorte des maîtres d'école, fixant une fois pour toutes comment les choses devaient être écrites. C'est simplement. Et cette décision-là, elle peut être arbitraire, elle peut être déformante, elles peuvent être fausses. Mais c'est un événement qui s'est produit dans le cadre de la transmission d'un texte de maître à disciple. Alors, nous avons des exemples que je vous ai cités la leçon dernière, la déesse Armaïti au lieu de Aremaïti. C'est absurde, ça ne correspond qu'une règle phonétique, mais ça ne s'explique pas non plus par une fausse vocalisation. Mais c'est une décision prise par les responsables du texte, en quelque sorte. Dans les textes vieil avestiques, Éric Pirard et moi, nous avons parlé pour ça de graphies immotivées. Elles ne correspondent pas à la réalité phonétique, mais elles ne s'expliquent pas non plus par des erreurs, par des fautes de copie. Ce sont des décisions arbitraires, immotivées, qui sont prises à un moment donné pour donner au texte une certaine apparence. Ce sont des règles, en quelque sorte, mais des règles qui ne recouvrent pas véritablement une réalité phonétique. Donc, pour les distorsions graphiques de Kuiper, Hoffmann y substitue l'idée de diasévase. Alors, les différences linguistiques, bon, Hoffmann, on les réduit beaucoup, je ne vais pas m'y attarder, il y a des différences linguistiques. Bien sûr, la vestique n'est pas le sanskrit, c'est évident. Mais alors, les différences idiomatiques, ici aussi, Hoffmann va préciser d'une façon très intéressante, n'est-ce pas ? Et je crois que, en réalité, il faut bien nous rendre compte que la vestique, ce n'est tel que nous l'avons cueilli, ce n'est pas une langue qui a évolué naturellement. Ce n'est pas l'évolution naturelle, je vais dire, en milieu historique d'une langue donnée. C'est une langue qui a évolué dans le cadre strict d'une transmission savante. Différentes écoles peuvent avoir apporté des nuances particulières à leur élocution. Idiomatique, ce n'est pas nécessairement le dialecte réel qui était celui des copistes qui est en cause, mais quelque chose d'autre. Ça correspond, comme Hoffmann l'expliqua, l'Avesta de l'archétype sassanite, auquel il croit fortement. Ce qu'il transcrit à partir de la transmission orale, même cette écriture inventée pour mettre par écrit l'étalon textuel, ce que l'on va mettre par écrit, c'est ce que la transmission orale livre jusque-là. C'est-à-dire que le texte traduit tout simplement l'élocution liturgique de l'époque de la mise par écrit. Il transcrit cela. La manière dont l'on récitait le texte lors des performances rituelles à l'époque de la mise par écrit. Et c'est donc un texte qui ne transmet plus parfaitement les caractéristiques de la langue originale. Mais à travers l'histoire de la transmission orale, les colorations dialectales les plus diverses sont possibles. D'ailleurs, avec l'hypothèse aracosienne, Hoffmann va faire l'hypothèse d'une de ces colorations, la coloration aracosienne. Bon. Alors, voilà l'hypothèse de ce que Hoffmann nous propose de substituer d'abord à la théorie d'Andreas, et tels sont les compléments ou les précisions qu'il apporte à l'hypothèse de Bailey. C'est avec cela que nous nous trouvons en 1989. Et comme je vous le disais la fois dernière, nous sommes très satisfaits. Je vous ai dit, ça m'a rendu par deux fois ici, dans 1989, lors de ma première leçon, et puis cinq ans plus tard, lors de ma leçon inaugurale, ça donnait un ton triomphaliste particulier à ce que je disais là-dessus. Ce ton triomphaliste aurait été celui de n'importe qui d'autre. Nous avons l'impression que, enfin, on allait pouvoir bien travailler parce que nous avions enfin, pour la première fois dans l'histoire de la discipline, nous avions pour la première fois une représentation tout à fait cohérente et qui, pensions-nous, correspondait sans nul doute à la réalité de ce qu'avait été la transmission avestique. Nous ne l'avions pas eu jusque-là. C'était, quand j'ai pris mon enseignement au Collège de France, après une autre leçon, après une leçon dont nous parlerons plus tard pour d'autres raisons, j'ai souhaité commencer par le début, c'est-à-dire exposer la théorie de Hoffmann avant d'en venir à d'autres types de problèmes, comme si c'était la base, la base essentielle de toute recherche à cette époque. C'était la préparation du cours de 95-96. Et j'ai intitulé aussi ce cours d'une manière un peu provocatrice « Les Mazdéens ont-ils eu un livre sacré ?» Parce que, tout en exposant l'hypothèse d'Hoffmann, je comptais faire la critique tout de même de la notion de livre sacré, ce qui avait pour base, finalement, n'est-ce pas, quelque chose dont je viens de vous parler, c'était mon scepticisme envers l'hypothèse aracosienne. J'aurais voulu dire que ce qui me dérangeait dans l'hypothèse aracosienne, indépendamment de la faiblesse des arguments qu'il a fondés, c'était aussi qu'on avait l'impression, comme cela, qu'il y avait toujours eu, comme dans la vieille représentation de Geltner, 100 ans plus tôt, un livre. un livre qui s'appelait l'Avesta, et que nous ne pouvions pas chercher à savoir comment cet Avesta, finalement, s'était assemblé progressivement. Mais la notion d'Avesta, à l'époque de Darius, à l'époque des Achéménides, ça me paraissait quelque chose de très bizarre et dont il fallait faire la critique. Alors, mon but initial, avant de me lancer dans cette recherche, de préparer le cours, c'était exposer comme les prémices absolument nécessaires la représentation d'Hoffmann et d'apporter cette nuance un peu négative, un peu sceptique, pas sur l'hypothèse arachosienne, ce qui justifiait le titre. Or, en préparant le cours, je me suis rendu compte que le schéma de Hoffmann ne fonctionnait pas bien. Il y avait un certain nombre de problèmes. Il y avait un problème, et le problème, il se trouve dans la Stammhandschrift. C'est la Stammhandschrift qui pose problème. Car il y a une certaine... C'est une chose assez bizarre. Le problème général et le plus important, c'est que la Stammhandschrift réduit d'une manière extrêmement étrange la période de déperdition des textes avestiques. L'archétype sassanide, ou bien l'Avesta Ausgabe que nous possédons, c'est très différent. L'Avesta des débris que nous possédons, selon Hoffmann, doit représenter un peu moins du quart, mais c'est une estimation extrêmement douteuse encore, hein, de ce qu'était l'archétype sassanide. Or, vers 850, au IXe siècle, le rédacteur du Denkard dispose d'un Avesta qui est encore complet. Mettons 850, hein, pour avoir une représentation chronologique, je vais dire, complète. D'autre part, la Stammhandschrift, avec son aspect déjà défectueux, ses fautes d'orthographe, hein, et puis le fait qu'il ne représente plus que ce que les manuscrits de l'Avesta Ausgabe comportent, hein, ils sont le modèle de l'Avesta Ausgabe, ce n'est plus l'archétype sassanide, c'est le reste de l'archétype selon Hoffmann. Eh bien, 1020, cet Avesta réduit à ce que nous possédons, hein, c'est l'an 1020. Il y a là quelque chose comme un peu plus de 150 ans. Donc, les textes se seraient perdus en 150 ans, à peu près. Il n'est pas rassurant de voir que l'on ne peut pas expliquer cette perte brutale et rapide des textes. On ne peut pas bien l'expliquer. Et on ne peut pas bien l'expliquer en fonction d'un problème qui aussi me tracassait beaucoup, me tracassait très longtemps, mais vous allez voir que nous allons le résoudre progressivement dans la recherche qui a suivi. Et l'article n'est pas paru, mais je l'ai dit lors d'une communication, lors du colloque organisé à la retraite de Michel Tardieu, c'est que quelque chose n'a jamais été dit clairement, jamais, par les philologues de l'Avesta jusqu'ici. Les textes de l'Avesta sont considérés comme sacrés, car ils le sont évidemment, hein, dans l'expression « livre sacré », c'est le mot « livre » que je n'aime pas. Mais sont-ils considérés comme sacrés parce qu'ils sont d'usage rituel, parce qu'ils symbolisent, personnifient la pratique rituelle? Ou bien sont-ils utilisés rituellement aujourd'hui, à partir d'une certaine époque, parce qu'ils sont sacrés? Qu'est-ce qui vient d'abord? Le caractère sacré ou l'usage rituel? Vous trouverez la réponse à cela, ou même la question évoquée nulle part. Hein, ou bien plutôt, vous trouverez les deux opinions exprimées incidemment, n'est-ce pas? Alors, Hoffmann a réuni un peu les deux questions, n'est-ce pas, en proposant ce qu'il sentait bien être un problème. Je n'en étais pas conscient, mais il y a très certainement Hoffmann devait ressentir un certain malaise devant la disparition rapide des textes. Et il a suggéré l'explication suivante qui combine un peu les deux hypothèses, c'est-à-dire on a conservé de l'archétype sassanide que les textes d'usage rituel. Bon. C'est une explication un peu incohérente, parce que tout le monde est bien d'accord que sur les... était bien d'accord, du moins, hein, que sur les saints livres qui constituent l'Avesta, il y en a qui ne sont pas apparemment des textes sacrificiels, des textes rituels. Surtout le Videvdat, d'apparence. Nous y reviendrons, d'ailleurs, très vite. Mais le Videvdat, si l'on traduit data, qui est le genre auquel appartient le texte, qui traduit le genre auquel appartient le texte par loi, ça paraît être un traité de réglementation, un traité où l'on énonce un certain nombre de, bah, de lois. Je n'ai jamais aimé le mot loi à cause de ça, parce que d'abord, ce n'est pas juridique hein, nécessairement, quoi qu'on a pu le prétendre, mais ça nous incline à penser que nous avons quelque chose d'autre qu'un texte rituel, nécessairement, mais un ensemble de dispositions impérieuses à observer, etc. Bon, alors voilà, ce texte n'est pas par nature, ne doit pas par nature, en principe, servir au rituel. Alors, nous l'avons conservé quand même, mais nous l'avons conservé parce qu'à partir, dira Hoffmann, c'est une représentation que l'on pouvait en avoir, à partir d'une certaine époque, mais d'une époque relativement tardive, à la fin de l'Empire sassanide, ou peut-être après, vers le 8e, 9e siècle, etc., on a introduit le texte du Videvdat dans certains rituels, ce qui est effectivement le cas, n'est-ce pas ? Ça, c'est, il figure effectivement dans certains rituels, mais la date de son introduction, c'est un autre problème. Donc, Hoffmann essaye de combiner les deux choses, mais fait de l'usage rituel le principe de sauvegarde des textes. Les textes que nous avons conservés ont été... conservés parce qu'ils étaient utilisés. Ça paraît être une bonne raison, oui. Mais il y a autre chose. C'est que les doutes que me laissait cette perspective de la perte concentrée, hein, la concentration de la perte des textes, m'a ramené à lire attentivement ce que dit Geltner. Et cela, c'est un conseil que Hoffmann lui-même disait. On ne lit jamais assez, on ne relit jamais assez la description de la tradition manuscrite avestique que Geltner, finalement, est le seul à avoir vu dans son ensemble hein, pour faire son édition. Personne n'avait plus jamais réuni tout ce matériel. Hein. Il ne l'avait eu sous les yeux. Geltner est le seul, n'est-ce pas ? Il a laissé une description extrêmement précise dans les prolégoménas de son édition critique. Eh bien, lorsqu'on lit les prolégoménas de Geltner, on se rend compte que l'Avesta, ce n'est pas un livre. Hein. Ça, c'est l'impression que donne son édition, parce qu'il édite les textes livre par livre. Rappelez-vous, vous aviez l'exemplier hein, de ces cinq livres. Mais en réalité, nous avons affaire à deux ensembles. Deux ensembles. Ces livres s'organisent, ce que les books, les livres, comme les appelait Geltner, eh bien, ils s'organisent en deux ensembles particuliers. Il y a un ensemble composé, je vais vous expliquer comment, du Yasna, du Visprat et du Videvdat. Le Yasna, c'est une cérémonie unitaire et longue. À certainement l'époque de l'archétype sassanide, jusqu'à nos jours, au moins. Bon, plus avant, nous ne savons pas. Cette cérémonie longue et unitaire peut recevoir un complément. C'est le texte du Visprat. Il y a deux manières d'introduire le texte du Visprat dans le Yasna. C'est soit ajouter le texte du Visprat, soit le substituer, il est en général plus étoffé, à certains textes du Yasna. Donc il y a soit intercalation, soit substitution. Cette première extension possible peut en recevoir une deuxième. C'est l'intercalation des chapitres du Videvdat entre les chapitres de l'Avesta ancien, c'est-à-dire, grosso modo, entre les chapitres 28 à 54. Du Yasna. sur les 72 chapitres. Donc, les trois livres ne comportent qu'un seul ensemble, parce que, selon le choix des cérémonies, ils s'agencent ensemble pour composer une cérémonie particulière, cérémonie télescopique, en quelque sorte, qui a un centre, le yasna, mais qui peut être élargie, qui peut recevoir des additions, des intercalations, plus exactement. Donc cela, ensuite, les yasht et le corda avesta constituent un autre ensemble. Donc ça, ici, nous n'avons plus affaire à des rites unitaires, mais à des rites séparés. C'est une sorte de collection de rites mineurs, de rites privés. Le livre des yasht, ce sont des rites importants, ce sont les rites pour les dieux autres qu'Ahura Mazda, les récitatifs, ce sont des hymnes sacrificiels aux dieux autres qu'Ahura Mazda, et puis le corda avesta, ce sont des rites saisonniers ou bien particuliers, bon, en général de très petites, très, très réduites, pas très longs. Bien, alors ce qui est très intéressant, c'est que cela apparaît dans la tradition manuscrite. Nous n'avons pas, sauf pour, peut-être à la fin du XIXe siècle, quand tel philologue occidental demandait à un prêtre mazdéen de Bombay de lui envoyer, de lui faire un manuscrit avec tel ou tel texte. Là, oui, nous avons des exemples comme ça au XIXe, mais dans la masse des manuscrits que nous avons recueillis, ces deux ensembles sont étanches. Ils sont étanches. Il n'y a pas de manuscrit qui nous livre, par exemple, le yasna avec des yasht. Non. Ce sera ce que j'appellerai désormais la liturgie longue, yasna visprat videvdat. Cela fait l'objet des préoccupations de certains copistes, et c'est cela qui est envisagé. Et par contre, aucun texte qui donne, aucun manuscrit livrant le texte des yasht ne donne des morceaux éventuellement du yasna ou du videvdat. Du point de vue de la tradition manuscrite, les deux ensembles rituels sont étanches. Alors, voici une autre conception de l'Avesta qui se présente. Alors, dans ce cas-ci, on peut se poser une autre question, c'est celle que je me pose. Est-ce que, réellement, la notion qu'il faut mettre en cause, ce n'est pas celle d'archétype sassanide? Et si les deux rituels, les deux ensembles rituels que nous avons recueillis étaient indépendants de l'archétype sassanide, si c'était des textes rituels constitués en marche de l'archétype sassanide et qui se sont transmis comme tels, alors nous avons une situation tout à fait différente. L'archétype sassanide, on peut même avoir des doutes sur son existence, sur ce qu'il a réellement été. Nous ne sommes pas obligés d'accepter la description du Descartes. Il a disparu entièrement. C'est un livre qui a sombré, et peut-être pas à la date des Stamm Handschriften, mais peut-être même beaucoup plus tard. C'est ce que, d'ailleurs, on a déjà, Marie Boyce l'avait pensé, sans se référer à la théorie des Stamm Handschriften, n'est-ce pas, mais avait pensé que c'était en réalité les invasions mongoles ou seldjoukides au XIe, XIIe siècle qui devaient être responsables de la disparition de l'archétype sassanide. Donc, un texte qui a entièrement disparu, qui est pour nous lettre morte. Et ce que nous avons, ce sont deux liturgies distinctes qui se sont constituées en marche de l'archétype sassanide et qui sont parvenues intactes. Intactes. Ce ne sont plus des débris. Pas. Ce sont deux liturgies cohérentes que nous recueillons. Donc, d'un côté, un scepticisme extrême sur, je vais dire, l'archétype sassanide, que de toute manière, nous n'avons aucune voie ne nous permet de le connaître. Et d'autre part, cela rend une certaine dignité aux textes avestiques que nous possédons, qui ne sont plus des ruines hasardeuses, les débris hasardeux d'un naufrage, mais qui sont des textes cohérents, complets et cohérents. Alors, la première conséquence de cette observation, c'est que Je n'ai pas fait une seule année de cours sur le sujet, j'ai dû en faire deux parce que ça changeait trop de choses. Ça, c'est le détail. Mais si vous me permettez un instant de dire quelque chose de personnel, j'étais très mal à l'aise avec cela. D'abord, je découvre cela l'année même de la mort de Karl Hoffmann, à qui je voue une admiration, l'a-t-on dit, presque une vénération grande. Et alors, cela me met dans un état personnel de malaise qui a fait que j'ai consulté trois personnes avant de rédiger l'article. Je me suis adressé à Johan Arten, qui je considérais comme dépositaire de la pensée de Hoffmann. J'ai consulté Mary Boyce, qui est complètement antithétique avec ma propre personne et mes propres conceptions scientifiques. Mais j'avais au moins l'avis des contraires. Et puis, Judith Josephson, dont je respecte beaucoup la compétence pour les données moyennes iraniennes que je ne contrôle pas moi-même très bien. Donc, je m'offrais ainsi une certaine sauvegarde, donner un peu quelques moyens de me rassurer, en tout cas. Seule Mary Boyce a réagi avec beaucoup d'enthousiasme. Judith Josephson, plutôt, n'a pas voulu prendre position. Johanna Narted m'a trouvé qu'effectivement, c'était extrêmement impressionnant. Et cela explique peut-être que pendant un certain nombre d'années, j'ai attendu avant de tirer les conclusions de ces observations que l'on réagisse à l'article où j'avais exposé cela dans deux livraisons consécutives du journal asiatique, hein, dont vous avez le renvoi sur les exempliers. Et les confirmations, il est apparu au fil des années que cette représentation de la transmission avestique, qui était tout à fait différente de celle de Hoffmann, était très largement acceptée. Hein, je pense que pour moi, ce qui m'a rassuré beaucoup, c'est l'approbation de Mikiel de Waan en 2003 dans son livre sur les voyelles avestiques, et puis deux ans plus tard, en 2004, dans la thèse de Cantera sur la transmission du Videvdat en 2004, mais je savais aussi par des voies orales que d'autres considéraient que cette nouvelle représentation de la Vesta était probablement correcte, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, comment nous représentons-nous après cela la Vesta maintenant ? Eh bien, nous voyons que ce que nous avons cueilli, ce sont deux liturgies. La première, je l'appellerai la liturgie longue, Yasna Visprat Videvdat. Leurs dispositions sont évidemment arbitraires, hein. C'est une formation télescopique qui n'est pas obligatoire. Hein, une liturgie longue et unitaire, centrée sur le yasna. Ensuite, un certain nombre de rites particuliers que l'on trouve dans les yachts del Corda Avesta. Est-ce que cette représentation des choses... j'ai sans doute été aussi sensible. Ce qui m'a peut-être inspiré, c'est que cette idée-là n'était pas nouvelle. Elle était seulement extrêmement minoritaire. On trouve, par exemple, dès 1881, dans un article d'un des grands pionniers de la philologie avestique, Friedrich Spiegel, cette idée que ce que nous avons n'a rien à voir avec la Vesta sassanide, mais qu'il s'agit, je donne le terme utilisé par Spiegel en 1880, un Gebetbuch, un livre de prière. Quelque chose de semblable, mais de très vague. Je l'ai relu avant ce cours quelques fois, et je ne sais pas très bien comment... Je ne voudrais pas faire le résumé de cette pensée parce qu'il y a des éléments qui m'échappent un peu dans la manière dont il présente les choses. Nuberg, en 1938, avait aussi postulé l'indépendance des textes avestiques que nous possédons par rapport au livre sassanide, 1938. Et puis, Dans un article qui n'est paru qu'en 2000, mais dont il m'avait envoyé le manuscrit, Antonio Panaino, que vous connaissez bien, avait, mais très hâtivement, défini notre Avesta, l'Avesta Ausgabe, comme un missel. Ce que je n'aimais pas, parce que je suis toujours extrêmement méfiant envers les expressions analogiques. Je n'aime pas non plus Gebetbourg parce que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas, je pense que ces appellations sont non seulement analogiques, donc dangereuses, trompeuses, mais elles sont imprécises. Ce que nous avons, c'est un rite. Un missel, ce n'est pas un rite, ce n'est pas une liturgie complète. Un Gebetbourg, un livre de prière, non plus. Ce que nous avons à faire, ce sont deux récitatifs liturgiques complets et obligatoires et articulés. Ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas des livres où on va choisir la prière que l'on va réciter aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Ce sont le récitatif de cérémonie. Ça, c'est très clair. Alors, il y avait autre chose. C'est que, semble-t-il, ces rituels sont anciens. Ça, nous allons y venir la semaine prochaine. Ce sera notre souci. C'est d'essayer d'établir l'ancienneté. Mais, nous terminerons là-dessus maintenant. Et ces livres, si un jour on a collecté la Vesta sassanide, sous Chabour II, peu importe, ou sous Khosrow Ier, ces rituels sont beaucoup plus anciens. Ils remontent à une époque bien antérieure à l'époque sassanide, qu'ils sont peut-être aux Achéménides, peut-être avant. Donc là est aussi la grande différence. Ce ne sont pas des constitutions constituées en marche de l'Avesta sassanide, mais ce sont des conglomérats textuels de loin antérieurs à l'Avesta sassanide, même si leur texte constitutif se trouve aussi peut-être dans l'Avesta sassanide, s'il a existé. Mais c'est un phénomène ancien et nous reprendrons cela, si vous voulez bien, la semaine prochaine. Merci beaucoup.